Canicule aujourd'hui, elle concerne surtout la façade atlantique, Paris et sa proche banlieue. Il fait cet après-midi jusqu'à 39 degrés et il ne faudra pas compter sur la fraîcheur nocturne. Les températures resteront élevées cette nuit ainsi que pendant la journée de demain. Le Tour de France, il s'attaque aux Alpes. Les coureurs sont partis de Gap avant midi pour 187 km en direction de l'Alpe d'Huez. Et les choses sérieuses commencent, Vincent Hulin.
Ah oui, ça commence très sérieusement et ça explose dans tous les sens, dans tous les coins avec cette première ascension, la difficulté avec un col de haute hors catégorie, le col de l'Isoard. Ils étaient partis au kilomètre 33, ils étaient 25 coureurs et là ça implose véritablement dans ce groupe d'échappés avec un seul homme en tête pour l'instant, Stefano Garzelli, l'italien de la Liquigas qui a pris véritablement l'ascendant. Il lui reste 1,5 km à parcourir pour arriver au sommet. Derrière lui, un groupe qui est en train d'avancer à sa main, tranquillement mais sûrement chacun son rythme. Dans ce groupe-là, on compte Incapi, Martinez, Voigt, Cunego, Anthony Chartaud ou encore Sylvain Chavanel. D'autres Français sont un petit peu plus en difficulté, Noah Vaugrenard ou encore Jérôme Pinault, l'ex-porteur du maillot à poids de meilleur grimpeur. Et on compte d'ailleurs dans ce groupe De La Fuente, le meilleur grimpeur, un peu plus loin, à plus de 4 minutes et 10 secondes maintenant, le peloton. Et par derrière, un nivellement par le bas avec des coureurs distancés tels que Cazard, Lemével, Nicolas Jalabert ou encore Florent Brard, le champion de France. Décidément, cette première ascension fait beaucoup, beaucoup de mal. 26 degrés, il y a encore un petit peu de chaleur et de difficultés pour les organismes. Mais pour l'instant, un homme en tête, Stefano Garzelli, un groupe intercalé et le groupe maillot jaune à plus de 4 minutes et 20 secondes sur la route du Tour. Vincent Hulin, France Inter.
Et on part maintenant à la Bourse de Paris.
La Bourse, avec la robinetterie Amel, robinetterie sanitaire des professionnels.
Et à la mi-journée, le CAC 40 est en baisse, Antoine Verlin.
Effectivement, Céline, le CAC 40 abandonne actuellement 0,39%. Il est à 4 731 points dans un volume d'affaires de 2 milliards d'euros négociés. Aux inquiétudes géopolitiques et pétrolières se sont ajoutées aujourd'hui de nouvelles déceptions en provenance des sociétés. Cette fois, c'est Atos Origine qui a revu à la baisse ses prévisions annuelles. Les SS2I sont donc à la peine. Atos d'ailleurs perd plus de 17%. Sur le marché des devises, l'euro est en petit repli de 0,08% à 1,2531. Et puis sur les marchés de l'or, à Londres, au premier fixing, l'once a perdu 5$ à 647,50. À Paris, le lingot est à 16 460. Le Napoléon à 94,10. Je vous rappelle le CAC 40 en repli maintenant de 0,43% à 4 729. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
14h04 sur France Inter. Tout de suite, l'Afrique enchantée avec Vladimir Canulari et Soro Solo.
Merci Céline Aslo et à tout à l'heure pour les infos. Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Et aujourd'hui, on va marcher au rythme, enfin on va marcher au pas en fait. Hein. Mais pas à n'importe quel pas, au pas de la rumba africaine, ou bien.
Coco, hey, viens là. C'est l'Afrique qui frappe à la porte.
L'Afrique enchantée.
Oh yeah.
Vladimir Canulari, Solo Soro, yeah. De 14h à 15h sur France Inter. Bonjour et bienvenue dans notre Afrique enchantée. Aujourd'hui, nous allons faire un tour en musique, bien sûr, dans le monde magique et tragique des forces de l'ordre. Forces de l'ordre, bon, c'est vite dit quand on a l'impression que la police, l'armée, bref, les gendarmes sont plus souvent les forces du désordre que de l'ordre sur le continent. Heureusement, il y a parmi elles, ces forces de l'ordre, des éléments qui préfèrent battre la mesure plutôt que les simples et honnêtes citoyens, et on leur rendra hommage dans ces cas-là. À elles aussi, il n'y a pas de raison. Donc préparez vos cartes de l'Afrique, préparez aussi un petit billet au car on aurait besoin de passer un barrage, on sait jamais. Nous partons à la rencontre de la maréchaussée et de sa copine, la grande muette africaine. Et pour nous accompagner dans ce voyage à risque et à péage, j'ai la joie jubilatoire d'être accompagné du journaliste radio le moins uniforme de sa génération, chef d'état-major de l'ambiance, le commandant Solo Soro. Solo, à quoi le sukawe ?
Sare !
Imare sakazam !
Psimi mareka !
Vous n'êtes pas à l'écoute de la radio-télévision malgache, mais bien de France Inter. J'ai salué Solo en lui demandant comment ça allait, et il m'a répondu...
Sare, c'est-à-dire, ça va bien.
Et je l'ai relancé parce que oui, sur le compte sinon, on ne se contente jamais d'un simple petit bonjour à la sauvette, non. Mm-hmm. Ça serait un manque criant et criard de civilisation. Donc je lui ai demandé « Imare sakazama », c'est-à-dire « Quel mouvement, tonton ? Sous-entendu, quoi de neuf, tonton ?»
J'ai répondu « Tsemi mare saka », c'est-à-dire « Rien de neuf ».
Bon, maintenant qu'on a fini les salutations d'usage...
« Umeu taratasi, aizakara palonju, tes papiers ?»
Mes papiers ? C'est-à-dire que... Monsieur l'agent, est-ce que... Pardon, on peut s'arranger ?
Bon, allez, viens avec moi, on va voir ce qu'on peut faire pendant la première chanson.
paya juru tige samba ya paya juru tige
Samba, donc le titre sur France Inter par l'orchestre des Amazones de Guinée. La Guinée-Conakry, c'est donc la Guinée francophone qui est située en Afrique de l'Ouest et on y parle le malinké. Et comme c'est une langue que tu as la chance de parler, commandant Solo, alors explication de texte, s'il te plaît.
Comment ça, c'est un saxo dangereux. En fait, Samba, c'est l'histoire d'un apprenti à qui une jeune fille demande de ne pas couper son baya. Le baya, c'est écrit en français baya, mais on prononce baya.
Avec le G devant.
Voilà. Ce sont des perles que nos Africaines, nos mamans, nos tantes, nos sœurs, nos femmes portent aux reins. Et c'est dangereusement érotique. Parce que quand un jeune homme veut montrer à une jeune fille qu'en fait elle lui plaît, il passe à côté au jeu de clair de lune et il tape sur ses reins. Et le baya, ces perles-là qui sont entaquées autour des reins, ça fait un bruit. Et puis, parfois aussi, dans des situations très intimes, quand le corps se parle, ça fait du bruit, c'est quelque chose d'érotique. Et cette chanson est très populaire en Afrique occidentale, en particulier dans le Sahel, où Samba, cette chanson classique, c'est Samba, hey, toi le petit apprenti avec ta vilaine gueule, là, faut pas couper mon baya, hein. Samba, ye, baya, dirutige.
Hey, parce que si on tape trop fort, on fait carrément tomber toutes les perles.
On peut faire sauter toutes les perles. Et c'est ce que cette jeune fille demande à Samba, l'apprenti du véhicule.
Alors, vous qui nous écoutez, vous vous demandez peut-être le rapport entre cet érotisme torride des perles et les forces de l'ordre qui sont notre sujet du jour. So, il y a une explication si on a joué les Amazones de Guinée.
Oui, c'est pas par hasard, c'est parce que les Amazones de Guinée, et c'était un orchestre de la gendarmerie en Guinée-Conakry de Sékou Touré, est entièrement composé de femmes, bien entendu, des gendarmes. Et pour leur prestation publique, excuse-moi de te couper la parole.
Non, vas-y,
elle ne jouait pas toujours en tenue militaire. Et on le voyait en tenue de scène et tu vois une femme qui est dans la vie de tous les jours, c'est une gendarme donc qui normalement fait peur parce que le pouvoir de l'armée, je t'en parle pas, et qui vient te sortir un dangereux solo de guitare, je te raconte pas. Et que tu imagines qu'en bas de cette tenue, il y a un baya qu'en le tapant, tu vas entendre « Eh, diable, ma vieille !» Tu entends aussi un solo de saxo comme on l'a entendu à la fin de ce morceau. elles étaient d'une célébrité indescriptible dans toute l'Afrique occidentale.
Donc l'orchestre des Amazones de Guinée est un orchestre de gendarmes, parce que c'est vrai qu'être militaire, gendarme ou même policier, ben en fait ce sont les rares postes de fonctionnaires qui ne demandent pas vraiment toujours de qualification. Donc tout le monde se jette dessus, parce qu'en plus, bien souvent c'est des véritables positions sociales, quoi.
Effectivement, dans ces différents corps de forces de l'ordre, comme tu les as appelés, il ne faut pas une qualification particulière. Et pour les hommes ou les femmes de troupes qui sont engagés dans ce corps de militaires. Mais par contre, les officiers et autres gradés, ah, là, ça, ce sont des universitaires qui sont bardés de diplômes universitaires d'études sociales, de psychologie ou de lettres modernes.
Ou qui ont fait les grandes écoles militaires, y compris en France, par exemple, pour les pays francophones.
En l'occurrence, Saint-Cyr, l'école de Saint-Cyr a livré beaucoup d'officiers aux armées africaines. Et le statut social des corps habillés...
Voilà. C'est un mot générique pour désigner justement tout ce qui est militaire, gendarme, policier, puisqu'ils ont tous cette chose en commun, c'est l'uniforme.
Donc... C'est l'uniforme, et ça va du gendarme au policier, en passant par le militaire, et même aux gardes forestiers, en passant par les douaniers aussi. C'est tout ça qu'on appelle sous le nom générique de corps habillé. Donc je disais que le corps social, le statut social des corps habillés, il est envié et il est enviable. Parce que la tenue et les galons, mais ça donne du pouvoir. Ça, c'est quelque chose qu'on garde aussi de l'époque coloniale. C'est le garde qu'on le colon envoyait pour encaisser l'impôt. Et ça, ces traumatismes est resté dans les esprits des gens, jusqu'à leurs enfants, à leurs petits-enfants, en passant par les gens comme nous. Et puis, par exemple, pour illustrer ce rapport du citoyen avec le garde ou le corps habillé, il y a une chanson populaire aussi dans nos contrées, c'est celle du paysan qui lui-même se tourne en dérision en racontant au village comment un gendarme ou un policier ou un militaire voulait le contrôler ou voulait lui faire payer l'impôt. Il a dit, pour les citoyens, ça va les canteuil, n'était trop beau quand même, baba. Quand j'ai vu qu'il voulait me prendre de l'argent, j'ai dit, pardon, monsieur le policier, mon père, tu es mon père, mais je comprends pas français. Donc, tu vois, il a joué une petite comédie pour que le policier le laisse tranquille, quoi. Et ça fait partie des anecdotes qui circulent et qui illustrent la relation citoyen et corps habillé.
En tout cas, ces corps habillés, même s'ils sont pas toujours bien payés, ils peuvent toujours, au grand dam des populations, se rattraper sur les honnêtes citoyens avec le petit racket, notamment. Et quand on n'est pas policier, gendarme ou militaire, donc simple civil, eh ben, l'essentiel, c'est d'en avoir au moins un dans sa famille. Et justement, le Camerounais Donny Elwood fait partie de cela puisqu'il a un cousin militaire.
Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Oh, je serai déjà au cimetière, à 2 mètres sous terre. Pauvre cadavre, simple squelette, en train de sourire comme tous les squelettes de la terre. Qui n'arrête pas de sourire, le sourire de la mort. Mort de misère, misère des hommes pauvres macabres. On m'appelle Monsieur Galère, on m'appelle Tonton Misère. Je vis dans un quartier populaire et nous sommes de vrais prolétaires. Insuffisance alimentaire, vestimentaire, monétaire, nous sommes de vrais prolétaires et nous sommes majoritaires sur cette terre de misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il touche son salaire, me donne mon argent de bière et moi je pense chez ma rondière. Toute la nuit on s'envoie en l'air. Ça c'est tout à fait prioritaire. Chez nous les prolétaires, la bière et les rondières, car on n'a rien d'autre à faire que de s'envoyer en l'air avec nos mégères vers des héritières et des héritiers de la misère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Quand il s'en va en guerre, là-bas vers la frontière, moi je fais des prières. Moi je fais des paternosters. Une mauvaise guerre, une guerre frontalière, une guerre incendiaire, une guerre meurtrière, une guerre suicidaire. Heureusement que c'est un vaillant militaire. Quand il revient de guerre, me garde des pommes de terre. des bouts de pain rassis, de la sardine à l'huile, quelques kilos de riz, c'est de ça que je me nourris. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. J'ai pourtant fait le cours élémentaire, je sais lire, je sais compter. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Je peux même réciter le corbeau et le renard. Mais où est donc Ornicar? Je maîtrise même la grammaire. Je joue caillou, je joue palcal, carnaval. Faites quelque chose pour moi, mes frères. Je veux pas mourir dans la misère. Je veux pas finir dans la galère. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. Mama de Ben, Mano, aïe, je m'envoie. Heureusement que j'ai mon cousin militaire. 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 Heureusement que j'ai mon cousin militaire.
Un Outah était le plus grand fumeur de cannabis de notre quartier devant l'Éternel. C'était le genre de gars qui n'était venu sur terre que pour se fendre la poire. Ce jour-là, il avait fumé un énorme cône de cannabis. Il était donc d'humeur euphorique. Là-dessus, il sort de la cour commune et arrive sur la route qui traversait le quartier. Il était d'un côté de la route. De l'autre côté, il y avait deux policiers qui étaient occupés à racketter les automobilistes. Les deux policiers ne lui avaient rien demandé du tout. Voilà un Outah qui commence à se prendre la poire. Regarde ces abrutis-là. Comment ils peuvent savoir que j'ai fumé, moi? Je vais aller me foutre de leur gueule. Voilà un Outah qui prend ses deux jambes, traverse la route et vient se planter devant les deux policiers pour les saluer bien bas dans le pur style du grand théâtre. Il ôte son chapeau et leur dit « Bonjour, monsieur l'agent. » Voilà le paquet de cannabis qu'il avait dissimulé sur le chapeau et qu'il avait oublié qu'il tombe par terre. Un Outah reste tétanisé, vissé dans cette position, en train de s'abîmer dans une profonde contemplation de son paquet de cannabis en se demandant « Peste et choléra, comment vais-je pouvoir me tirer de ce mauvais pas ?» Là-dessus, le policier éclate de rire. Et tu vois, alors, c'est pour ça qu'on dit chez nous, là-bas, chez les bétis, « Olamé n'pali, okwale pianga, okokwabebele » dit littéralement en français, si tu tends ton piège avec la plaisanterie, tu l'enclenches avec la rigolade, tu trouveras la vérité prise au piège. Voilà ta vérité prise au piège ici. Ton compte est bon, mais j'ai pitié de toi. Prends ta chose et fous le camp avec ta malchance. Un Outah en tremblant ramasse son paquet de cannabis et s'en va sans regarder derrière. Depuis ce jour-là, un Outah n'a plus jamais plaisanté avec des policiers après avoir fumé du cannabis.
Nos auditeurs de France Inter qui étaient à notre rendez-vous de vendredi dernier ont reconnu le compteur camerounais Bindang Gazolo sur France Inter, mais il s'imposait au terme de corabier de militaires. Et si par hasard vous passez par le festival Africa Jar, qui se déroule du 27 au 30 juillet dans la ville de Cajar, c'est dans le Lot, eh bien, il y a des chances que vous tombiez sur une des animations de Binda Ngazolo.
L'Afrique enchantée, Vladimir Cagnolari, Solo Soro, sur France Inter.
Solo, on a vu ça tout à l'heure avec nos amis les gendarmettes, alias les Amazones de Guinée. L'armée, la police, la gendarmerie, ça a été aussi des pépinières de musiciens. C'est pour ça que tout à l'heure je disais battre la mesure plutôt que battre les honnêtes citoyens.
Ouais, on pourrait pas énumérer le nombre de pays où des orchestres entiers sont issus de des orchestres militaires ou de formations militaires. En tout cas, les instruments de fanfare, par exemple, notamment les cuivres, ils n'étaient disponibles que dans l'armée. Un pays comme le Bénin, c'est en Afrique occidentale, tu l'as déjà situé auprès de nos auditeurs, c'est dans le golfe de Guinée, à côté du Grand Nigeria. Bref, dans ce pays, il y a une formation qui de plus en plus tourne en Europe, qu'on appelle le Gangbé Brass Band, c'est-à-dire le brass band du métal. Et tous les musiciens, tous les instrumentistes de cette formation, ils ont tous des parents qui ont été gendarmes et des grands-parents qui ont été gendarmes. En fait, c'est une troisième génération de militaires qui a repris l'exemple des cuivres qu'on trouvait dans l'armée pour former une formation de fanfare.
Et c'était le cas aussi en Éthiopie où l'empereur Ménélique, c'était le prédécesseur d'Haïlé Sélassié qui est plus connu, il avait reçu en cadeau de son collègue, le tsar Nicolas II de Russie, une quarantaine d'instruments avant. Et c'est comme ça que, dans le giron du pouvoir, sont nés les premiers orchestres modernes d'Éthiopie. Puisque bien sûr, il y avait les orchestres traditionnels, mais avec l'apparition de ces instruments avant, et puis plus tard d'autres instruments amplifiés, se sont développés les orchestres, toujours dans le giron du pouvoir. Et donc, on a demandé à Francis Falsetto, que vous avez déjà entendu ici, puisqu'il a dirigé la super collection musicale Les Éthiopiques, de nous raconter l'âge d'or de l'Army Band, de l'Imperial Bodyguard Band, du Police Orchestra. Nous sommes entre 1950 et 1974 à Addis Abeba.
Chaque corps d'armée, chaque corps institutionnel avait son orchestre. Il y avait un des tout premiers, un des principaux, un des plus grands, un des plus brillants, c'était l'orchestre de la garde impériale. Il y avait l'orchestre de l'armée, il y avait l'orchestre de la police, il y avait l'orchestre de la municipalité d'Addis Abeba, il y avait l'orchestre du théâtre Haïlé Sélassié. Et tous ces orchestres étaient des orchestres institutionnels, je veux dire dépendants du pouvoir. Il n'était pas possible de fonder jusqu'au milieu des années 70, il n'était pas possible de fonder pratiquement un orchestre privé indépendant. Pour dire le vrai, les premiers orchestres, les premières tentatives d'orchestres privés indépendants sérieuses ont commencé à la fin des années 60. C'était principalement autour des hôtels. Les hôtels, les grands bars, les grands lieux de plaisir et de consommation alcoolisée, les nightclubs, souvent sponsorisaient un orchestre et l'orchestre avait le nom de l'hôtel. Le Ras Hotel, il y avait le Ras Band, le Wabi Shebele Hotel avait le Wabi Shebele Orchestra. Mais toute cette musique moderne est issue principalement des grands orchestres institutionnels. C'est-à-dire qu'à côté des fanfares, très très vite, dès les années, la fin des années 40, au début des années 50, il y a eu des sections de jazz, ils appelaient, ce qui voulait dire musique moderne en fait, musique à l'européenne, des sections de musique légère. Et là où ils ont fait très très fort, c'est à partir du moment où ils ont planté devant ces grands orchestres des chanteurs éthiopiens, ce qui ne faisait pas partie de la tradition, mais ils se sont inspirés de ces grands orchestres à la suite de la vogue d'après-guerre des orchestres à la Glenn Miller, à la Cole Porter, des choses comme ça, et ils ont choisi des chanteurs. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si en France Edith Piaf, Charles Trenet, Johnny Hallyday, Alain Souchon était accompagné par l'orchestre de la garde républicaine, par exemple. Des choses profondément impensables pour nous. Mais ça a été comme ça en Éthiopie jusqu'au début des années 70. La musique moderne, qu'est-ce que c'est? En Éthiopie comme ailleurs, en Afrique, en Amérique du Sud, dans beaucoup de pays d'Asie, c'est une musique qui s'est inspirée de la musique traditionnelle, mais qui a été jouée avec des instruments empruntés aux Européens. Et comme par hasard, tous ces instruments sont arrivés par les colonisateurs, à travers des fanfares militaires qui jouaient les hymnes, des marches, des choses comme ça. Et petit à petit, les musiciens locaux qui formaient ces fanfares se sont appropriés les instruments pour jouer la musique locale. Et c'est ça qu'on appelle les musiques modernes dans ces pays. C'est une musique musique qui, dont la tonalité principale tient au cuivre. En Éthiopie, d'un côté, il y a les ménestrels, les asmaris, qui jouent toujours depuis des siècles et encore aujourd'hui avec leurs instruments à cordes traditionnels, le masinko, le krar, qui sont des viols et des lyres. Et de l'autre côté, il y a une musique moderne qui se singularise par les instruments occidentaux. Et c'est vrai que le fameux âge d'or de la musique éthiopienne moderne, 1955-1974, grosso modo, c'était une période où les cuivres étaient vraiment devant. Les grands orchestres, et il faut voir les photos de ces orchestres, c'était 5, 10, 15, 20 souffleurs, d'une élégance incroyable, la plupart du temps de smoking, enfin, des images totalement éberluantes, ce qu'on n'imagine pas, avec les clichés qu'on a sur l'Éthiopie, on n'imagine pas des élégances de ces grands orchestres.
Quels sont les principaux thèmes composés et chantés par les orchestres institutionnels?
Officiellement, c'est principalement des chansons d'amour, comme partout. Mais compte tenu de la complexité de la liberté d'expression en Éthiopie, traditionnellement, c'est pas une chose spécialement contemporaine, ça a toujours été comme ça. Ces chansons d'amour servaient à dire le pire et le meilleur du pouvoir en place. Un des exemples qu'on cite souvent, ou qu'il faut citer, c'est en décembre 1960, il y a eu une tentative de coup d'État contre Haïlé Sélassié. Il a bien failli perdre son trône à ce moment-là. Et ce coup d'État a été fomenté par la garde impériale et par la police. Et un des grands chanteurs emblématiques de l'Éthiopie moderne, Talaung Gesese, avait à son répertoire une chanson qui s'appelait Al Chalkoum, littéralement « J'en peux plus ». C'était officiellement une chanson d'amour, « J'en peux plus, elle m'a quitté, vraiment, elle est pas bien, elle est méchante, je suis malheureuse, tout ça ». En fait, tous les Éthiopiens comprenaient que c'est « J'en ai assez de ce régime, il faut le changer ». Et donc, cette chanson a très vite été interdite. Et une fois le coup d'État échoué, le chanteur est allé passer quelques semaines en prison. Cette tradition continue toujours. Il y a tous les ans, même encore aujourd'hui, une ou deux chansons très nettement protestataires, mais déguisées dans des plaisanteries ou dans des chansons d'amour. Et ce sont régulièrement les tubes principaux de l'année.
Rassen Becha de Talum Gessessé sur France Inter. Et là, c'est l'exemple d'un orchestre, enfin, d'un chanteur qui était dans le Bodyguard Band. En fait, ce Bodyguard Band s'appelait précédemment la Garde Impériale.
L'orchestre de la Garde Impériale,
c'est ça. L'orchestre, ouais, de la Garde Impériale. Et c'est quand il y a eu la révolution de 1974 que cette appellation de l'orchestre de la Garde Impériale est devenue le Bodyguard Band. Et c'est également une de ces chansons à double sens, ce qui est un phénomène courant de culture dans la musique éthiopienne, même dans le parler éthiopien. Et ce titre qu'on a entendu, Rassen Becha, il est présenté comme une chanson d'amour. Mais visiblement, c'est une chanson politique, vu d'abord qu'elle a été composée en 1974, c'est-à-dire au début du règne de la junte militaire en Éthiopie. Et elle dit ceci. Ne demande pas à ce qu'on te fasse confiance. Et ne fais confiance à personne. Cette période finira par passer. L'homme te rend crédule avec son sourire, mais son cœur est loin. Beaucoup ont trompé leur ami. Je devrais mieux articuler. Beaucoup ont trompé leur ami. Il ne faut pas céder à cette bataille du sourire. Tu ne dois faire confiance qu'à toi-même.
Solo, jusqu'ici, on a été plutôt sympa avec les corabillés. Mais bon, on va quand même être obligé de parler de leur ravage sur le continent. Tu parlais de la junte au pouvoir en Éthiopie.
Ben oui, il y a eu le cas, ce cas donc de l'Éthiopie, de la période de la junte militaire qui a renversé l'empereur Haïlé Sélassié Ier en 1974. Et la dite junte, dénommée Dergue, avec à sa tête Mengutu Haïlé Mariam, je ne sais pas si je prononce bien son nom, les Éthiopiens veuillent m'excuser, ils considéraient l'opposition et les étudiants comme des contre-révolutionnaires. Et par exemple, quand il y a eu des émeutes de l'opposition ou des étudiants, il a prononcé un violent discours et il a cassé des bouteilles de contre une liqueur rouge pour montrer que c'est la révolution rouge et que le sang va couler pour quiconque s'opposera à cette révolution. Ainsi, en 1978, par exemple, 5000 étudiants seront assassinés et 30 000 arrêtés. Ça fait des chiffres, hein.
Ouais, de 1960 à 1990, on a recensé près de 80 coups de force réussis en Afrique. Et évidemment, tout ça, ça se fait rarement sans le concours de la Grande Muette. Et c'est arrivé notamment en Côte d'Ivoire, en 1999. Le pays a vécu le premier coup d'état de son histoire. C'était orchestré par des militaires avec à leur tête une junte, enfin, à la tête de la junte qu'ils avaient mis au pouvoir, le général Robert Guéï, qu'on a du coup appelé le Père Noël en tri, vu la date du coup, puisque c'était un 24 décembre 1999. Et le jour même, le général Guéï apparaît à la télévision et il fait son premier discours. Et ce jour-là, Tiken Jafakoli branche son mini-disque sur la télévision.
Quand le général s'engage,
aider les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce que j'ai tenu à vous dire pour que les choses soient claires dans les esprits et que des quiproquos ne puissent pas nous diviser. Nous sommes venus pour balayer la maison. Une fois qu'on aura mis de l'ordre, et croyez-moi, je ne suis pas un ami du pouvoir. Sinon, j'ai les mêmes aptitudes que mes frères d'armes de cette fille.
Militaire, rappelle-toi, tu nous avais promis. Rappelle-toi, militaire, rappelle-toi. Rappelle-toi,
le peuple te regarde. Le peuple soit rassuré, que les diplomates soient rassurés, que nos ambassadeurs, auxquels j'ai expliqué les détails de ce qui s'est passé, et je crois qu'ils comprendront que ce qui est dit actuellement dans les polices ne sont que des rumeurs. Nous sommes venus pour faire au mieux pour que les Ivoiriens puissent effectuer
seulement orchestrer la bonne politique qui puisse être dans l'intérêt supérieur du pays, pour le bonheur du peuple et pour le salut de la République.
Militaire, pas besoin, tu nous avais promis. Pas besoin, militaire,
Promesse de caméléon, c'est le Tikenja Fakoly sur France Inter. Vois-tu, Vlad, des auditeurs pourraient se demander, mais qu'est-ce qu'ils sont attachés à Tikenja?
On n'a pas reçu d'argent, c'est promis.
Non, promis, on n'a pas été, on nous a pas offert des vacances par la major qui le distribue, bref. Enfin, vous l'avez noté, chers auditeurs, nous l'avons joué effectivement plusieurs fois, le titre de ce reggae ivoirien. Mais c'est tout simplement parce qu'il a une série de textes pertinents qui collent si bien à nos différents thèmes. C'est pour ça qu'il est aussi presque omniprésent. On prend des engagements pour dire qu'on ne le retrouvera pas?
Bon, dans les quelques prochains jours, en tout cas, on va s'efforcer de faire un peu des vacances de Tikenja Fakoly.
D'accord. Et le caméléon, cet album de Tikenja, là, tout le monde a vu, il met en scène le général qui promettait donc dans ce discours de mettre de l'ordre dans la maison, de balayer le désordre du précédent régime qui était dirigé par Colin Bédier. Et il décide donc de mettre de l'ordre et il arrive avec les militaires pour essayer d'organiser. Et là encore, il y a une petite parenthèse que je voudrais ouvrir sur les militaires pour dire comment on appelle leur bonne foi. À l'époque, hier, tu évoquais ma fameuse émission du Grognon, ce programme d'opinion, d'interaction avec les auditeurs. Mais cette émission, en fait, était suspendue 6 mois avant la fin du règne de Bédier. Et quand j'étais à l'envoi, je reviens au pays, mais les militaires qui étaient en grand nombre à garder toute la télévision et la radio nationale, dès qu'ils m'ont vu apparaître, ils m'ont porté, mais en triomphe, en disant, bravo, nous allons remettre la liberté de la presse sur les antennes, le Grognon va revenir. Tout ça pour illustrer la bonne foi des militaires.
Et à l'époque, quand le général a pris pouvoir, tant le régime précédent d'Henri Conan Bédier était devenu impopulaire, ça a été un soulagement pour tout le monde. Tout le monde était content.
C'est la première fois où on voit un pouvoir militaire, enfin, des militaires prendre le pouvoir et la population toute entière dans la rue pour les applaudir. Et c'est ce qu'on a vu. Il y a des images qui l'ont attesté sur les télévisions européennes. Et le général dit, oui, là, tu peux me demander quelque chose.
Et justement, en fait, dans ce discours qu'on a entendu de la chanson de Tikenja, oui, le général arrive, il se pose, il dit, bon, par rapport, on va faire de tout ce qu'il y avait avant, table rase, on va remettre de l'ordre et on va rendre le pouvoir
au civil. Et comme il n'a rien fait de tout ça, Tikenja a fait sa chanson en l'invitant à tenir ses promesses.
Solo, toujours sur notre affaire des militaires ou autres corps habillés, de manière générale, alors que les autres fonctionnaires cumulent dans les États africains bien souvent des mois de retard de salaire, on ne les compte plus, eh bien, les forces de l'ordre, elles, sont toujours les seules à être payées en temps et en heure. Rubis sur l'ongle.
Comme on dit chez moi, qui est fou? Tu vas t'amuser à ne pas payer les militaires, ou tu vas savoir ce qui a fait que le piment est rouge dans les champs. C'est l'expression pour dire, pour te mettre en garde, tu ne payes pas les militaires en heure et en temps, c'est un coup d'État. En fait, tout ça pour dire que dans bon nombre de pays, les officiers bénéficient toujours d'un traitement salarial très très avantageux. Ils sont choyés par les pouvoirs qui ne veulent pas les mettre à dos, c'est bien entendu. Et quand les caisses de l'État commencent à se vider de plus en plus, comme c'est bien souvent le cas dans certains de nos pays, et que l'État a du mal à payer les salaires, le peu d'argent qui reste, eh bien, les premiers servis, ce sont les corps habillés. Parce que les régimes ont toujours peur d'un éventuel coup d'État.
Et quand ils sont mal payés, et même quand ils sont bien payés, très souvent, ils finissent par en plus se servir sur la bête, c'est-à-dire nous ou bien les citoyens, et finissent finalement par se croire tout permis. Ils font la loi après dans la rue.
Les exemples sont innombrables. Enfin, là, j'ai pas été un témoin oculaire de ce qu'on m'a rapporté une fois à Bamako. On dit, mon ami, vous êtes bien en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas de pouvoir militaire. Nous ici, là, on souffre sous Moussa Traoré. Tu te rends compte? Mon cousin, il a sa station d'essence. Le militaire est venu avec sa moto, il s'est servi copieusement, il a rempli le réservoir et puis il est parti. Il n'a pas payé un sou.
Il dit, mais pourquoi on n'a pas déposé une plainte contre lui à la police? Il dit, quoi? Tu as posé plainte contre un militaire?
Qui est fou?
Qui est fou? Qui veut terminer en prison ou quoi? Laisse l'affaire là. Le militaire fait ce qu'il veut quand ce sont les régimes militaires qui sont au pouvoir.
Et dans le même ordre d'idée, moi j'ai souvent vu à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les minibus qui sont là encore tenus par des privés, des simples citoyens qui ont un petit bus dans lequel s'entassent, on en a parlé pendant les transports d'état de gens. Et ben les militaires, eux, non seulement ils veulent monter cadeau, gratuit, pas payé, et puis avoir les meilleures places de choix devant où on est un petit peu moins serré, quoi.
À tout seigneur, tout honneur.
Et là, en tout cas, dans ce western moderne où ce sont les cow-boys, où les cow-boys, justement, c'est des corps habillés, ils sont en uniforme, ben, les passages à tabac sont la règle. Et c'est pas Alpha Blondy qui dira le contraire, puisqu'en 1982, il en a fait une chanson.
Regardez ça, Barry, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est du vécu. Parce que beaucoup d'hommes avaient été victimes des brutalités policières. Mais puisque tu ne peux pas les porter plainte, tu ne peux rien faire. Bon, certains ont gardé le traumatisme en eux, ils sont devenus très acides. Et certains ont porté plainte. Et puis après, quand ils ont porté plainte, on les a encore tapés, plus leur plainte. Donc, tous ceux qui se sont reconnus dans Brigadier Savary ont fait de Brigadier Savary le succès qu'il a connu. Alpha Blondy, rond avec la langue de bois, ok, décide de chanter sa douleur en s'appuyant sur un fait réel. Une rafle de police, toute bête, un passage à tabac avec digne de ce nom.
Un jour, toi, tu as assisté à ça directement.
Ah, mais j'ai été l'acteur principal. C'est moi qu'on tabassait, c'est moi qu'on a ligoté, c'est moi qui ai eu droit aux rangers dans la gueule, on m'a pété la lèvre.
Dans quelles circonstances c'est arrivé?
Un contrôle d'identité simple. On me dit de monter dans le carreau, j'ai dit non. J'ai dit non. J'étais avec des amis, quand ils ont vu le cargo, la police, ils ont commencé à fuir. Moi, je comprends pas pourquoi. Les gars donnent mon papier, je donne mon passeport, ils disent une carte d'identité, j'ai dit, mais je n'en ai pas. Je viens d'arriver des États-Unis, et voilà mon passeport. Ils me disent, montez. J'ai dit, non, je ne monte pas. Aussi simple que ça. Enfin, aujourd'hui, l'histoire me donne raison de voir que quand moi je parlais de la brutalité policière, des tortures dans les commissariats et tout, on croyait que j'exagérais. Jusqu'à ce que d'autres voix montent au créneau, jusqu'à ce que des soi-disant responsables se fassent aussi tabasser, alors ils ont compris que ce n'était pas de la blague. Thank you. Sabaré veut dire pardon, ça veut dire c'est pitié. Ok, dans ce cas bien précis, c'est pitié. Pardon brigadier, pitié brigadier. On ne me reprendra plus jamais.
Et cette chanson, elle est plus actuelle que jamais, on dirait.
La douleur aussi, tu sais. Il y a le traumatisme, tu comprends, ce n'est pas immédiat. C'est à la longue. Les policiers ne peuvent pas dissocier la bastonnade du contrôle de papier. Ils ne peuvent pas dissocier l'humiliation du citoyen du contrôle d'identité. C'est la routine. C'est la routine. Et non, ils le font comme si c'est ce qu'on leur avait appris à l'école de police.
L'homme était anglophone. Il venait tout droit de Bamenda. Bamenda, c'est la capitale de la province du nord-ouest du Cameroun. Vous savez que le Cameroun est un peu comme le Canada, mais exactement le contraire du Canada, c'est-à-dire que les francophones sont majoritaires et les anglophones sont minoritaires. Et évidemment, entre les francophones et les anglophones, il y a toujours quelques petits soucis de compréhension. Je disais donc que l'homme était anglophone et qu'il venait tout droit de Bamenda. C'était un homme entre deux âges, que dis-je ? C'était un homme sans âge. Il était trapu et robuste comme le sont souvent les paysans de Bamenda. Mais pourquoi diable était-il venu mettre son gros nez dans mon guépier de quartier juste une nuit de rafle? En tout cas, là, c'était sa malchance, quoi. Voilà donc que l'homme tombe sur un policier teigneux qui l'interpelle automatiquement. Hey, « Hé, toi, passe ici, tes papiers !» L'homme lui répond « Ah, non, dis-je, ami French, Abi Bamenda man. » Pour ceux qui ne comprennent pas le pidgin, l'homme dit « Je ne comprends pas français, je viens de Bamenda. » Exactement le genre de réponse que les policiers francophones adorent. Là-dessus, l'homme lui administre une monumentale torgnole. Ah bon ! L'homme s'en étonne, se disant « Là, ce coup-ci, il y a un abus quelque part. » Il lui dit « ma piquine, you don't slap me. I tell you, sir, no bas slap me, you don't slap yourself. » Pour ceux qui ne comprennent pas pidgin, l'homme dit hey, « mon fils, tu m'as giflé, mais je te jure, ce n'est pas moi que tu as giflé, tu t'es giflé toi-même. » Là, le policier se dit encore un subversif. Il lève encore une fois la main pour en finir avec l'homme. Mais l'homme, plus rapide que son ombre, pointe sur lui son index en lui disant « I go show you now, je vais te montrer maintenant. » Tout d'un coup, le bras du policier qui était resté suspendu là-haut commence à se rétrécir. En une fraction de seconde, il ne restait plus qu'une petite menotte de nourrisson qui gigotait à l'intérieur d'une manche de treillis devenue trop large. Eh oui, c'est pour ça qu'on dit chez les bétis, « More mana ou les dit bon, littéralement en français, chaque être humain se promène avec la cause de ses propres malheurs. » L'Afrique enchantée, Vladimir Cagnolari, Solo Soro sur France Inter.
Merci Binda Ngazolo. Binda qu'on retrouvera bien sûr vendredi prochain puisque notre émission de vendredi, ça sera le Grand Dolé, c'est le nom d'un plat camerounais justement comme Binda. Des militaires qui s'accrochent au pouvoir, comme on a déjà un peu parlé, il y en a aussi en Algérie et depuis l'indépendance du pays. Et comme moi, vous pouvez pas avoir oublié la sale guerre que se sont livrés l'armée au pouvoir et les groupes islamiques armés dans les années 90 suite aux élections de 92 qui avaient été remportées par les islamistes et confisquées par les militaires. S'en sont suivis après des années de massacres où la population a été prise en otage entre les deux camps, à la fois victime des islamistes, à la fois victime des militaires. Et c'est au massacre des habitants de la bourgade de Bentala, le 22 septembre 1997, que fait référence cette chanson signée El Gafla. Ça s'appelle « À mon général ».
Les enfants, il a dit oui pour tuer les parents, il a dit oui pour te voler ton argent. Ce vieux charlatan, ça fait 40 ans. Il a dit oui pour égorger les enfants, il a dit oui pour tuer les parents, il a dit oui pour te voler ton argent. Ce vieux charlatan, ça fait 40 ans. Je te règle ton sort, pas d'inquiétude, je suis le conquistador. Il se met d'accord avec les brigandors, il a pris le peuple, il lui a dit d'or. Je m'occupe de toi, je te règle ton sort, pas d'inquiétude, je suis le conquistador. La crosse à la main, le cou au visage, la terre est promise au bon partage. Se prend pour Dieu, on tourne de ses rois mâches, lâche le ruchien sur un peuple en otage. La crosse à la main, le cou au visage, la terre est promise au bon partage. Entouré de ses rois mages, lâche le chien sur la plombe en otage. Ils ont dit oui pour couper ton cou, ils ont dit oui en prison on était fous. Ils ont dit oui préparer des temples, ces vieux généraux ça fait 40 ans. Ils ont dit oui pour couper ton cou, ils ont dit oui en prison on était fous. Ils ont dit oui préparer des temples, ces vieux généraux ça fait 40 ans. بلادي شو جاي زما تولي شو بان صغار ندفنوا عليك واللي نسيتيهم وحواليك علاش خليتيهم يحكموا فيك حضرت اللي واللي ضايرين بيه الراعي والخمس يضاربوا عليك فلان وفلتان تفاموا عليك Le trône nous prend pour des brebis. Tous les matins du 5 juillet, ils font la marche ensemble, ils défilent. Ils ont créé des barbes et des gilets. Partage le trône nous prend pour des brebis. Tous les matins du 5 juillet, ils font la marche ensemble, ils défilent. Winner, winner, que toi mon pays, on t'a donné le nom d'Algérie. Ils t'ont détruit, j'espère que c'est fini. C'est eux les ennemis, il faut s'en méfier.
À mon général, de El Gafla sur France Inter.
Et le massacre des habitants de Bentala, auquel fait allusion la chanson, a suscité une grande polémique, surtout depuis qu'en 2000 est paru un livre « Qui a tué Bentala » de Nesrullah Yous, c'était un des survivants du massacre. Et c'est un livre qui accusait les militaires au mieux de n'avoir rien fait, au pire d'avoir participé au massacre des groupes islamistes armés. Au massacre en accusant les groupes islamistes armés, pardon de la confusion. Bref, en relisant les coupures de presse autour de tout ce débat, on a au moins une certitude, c'est que l'horreur que ça a été pour la population de vivre et de mourir constamment dans la peur.
Glenn, je voudrais, sans vouloir applaudir les régimes militaires, je voudrais quand même, face à toutes ces atrocités que nous avons évoquées, avec l'exemple ou l'arrivée des militaires, on a quand même vu des militaires arriver dans des pays et ça a été salutaire pour le pays. C'est le cas du Mali, dont nous avons parlé dans la semaine. Le cas de l'exemple de Amadou Toumani Touré, où un militaire vient, il met de l'ordre, contrairement à un militaire comme Guéhi, il balaie, il réorganise la vie sociale, la constitution, et il quitte tranquillement pour en laissant la place aux civils. Voilà,
c'est que du bon sens. En tout cas, on va finir sur cette note un peu plus optimiste. Et écoute, il va falloir qu'on demande la route, non?
Absolument. Mes chers auditeurs, avec votre permission, nous allons demander la route. Yeah!
Et aujourd'hui, dans notre troupe, il y avait la chef d'état-major, Michel Soulier, à la réalisation, la caporale Hortense Vol, alias la nièce, qui était avec nous, et les adjudants-chef Olivier Riotor et Farid Chibani, qui nous ont aidés à faire cette émission. Merci à eux, merci aussi à vous qui continuez à nous écrire. Continuez, franchement, ça fait plaisir, non ?
D'être avec vous chaque fois. Merci, bonne journée.
On se retrouve demain. Là, c'est la publicité.
Bien sûr, Millionnaire vous offre la possibilité de devenir millionnaire. Et pour ces 15 ans, Millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve dans des villas de rêve. Mais bon, Millionnaire ne vous offre pas les lunettes de soleil qui vont avec. 15 ans de Millionnaire, 15 ans de rêve.
Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus. Voir modalité au sein du règlement publié au Journal officiel.
Vous êtes bien sur France Inter, il est 15h. Les informations avec Céline Asselot.
Le Premier ministre libanais demande un cessez-le-feu immédiat. Fouad Sinhoura implore les pays arabes et la communauté internationale de faire cesser les combats entre Israël et le Hezbollah. Il accuse Israël de vouloir ramener le Liban 50 ans en arrière. En une semaine, l'offensive israélienne a coûté la vie à plus de 200 Libanais, dont une majorité de civils. Et elle s'est même durcie aujourd'hui, cette offensive. 23 personnes sont mortes au Liban Sud dans des bombardements. À Beyrouth, le rapatriement des étrangers s'accélère. 8000 Français se sont inscrits sur les listes d'évacuation. Et les premiers rapatriés français sont arrivés à Chypre ce matin par ferry et atterriront ce soir à Paris. Le ferry fera un nouveau voyage dans la journée entre Beyrouth et Chypre avec 1000 personnes à son bord. Et la population israélienne n'est pas épargnée. Le Hezbollah continue ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël. Haïfa notamment est visée pour la troisième journée consécutive. Il y a plusieurs blessés. Le bilan ne